à la recherche de la paix. Un programme de la Voix de la Charité présenté par sœur Brigitte May, fondatrice de la maison de prière à Banin, au Liban.
Chers auditeurs, bonjour. Joie de vous retrouver, je l'espère, en bonne santé intérieure. Avant de répondre à votre désir de me connaître, pour mieux comprendre ce que je fais au Liban et pourquoi j'y suis encore, je veux partager avec vous une méditation du prédicateur brillant de la maison pontificale, le père Raniero Cantalamessa, dont je vous recommande tous les livres. Je le cite. Essayons d'imaginer ce qui se passerait si l'on tentait de transposer dans la pratique politique la grande valeur de la miséricorde. Limitons-nous à l'un des conflits les plus douloureux actuellement en cours dans le monde. Qu'arriverait-il si Israéliens et Palestiniens, au lieu de penser uniquement aux torts qu'ils ont subis, commençaient à penser également aux souffrances de l'autre partie, à l'exaspération à laquelle ils sont souvent réduits. La recette opposée à celle de la miséricorde, c'est-à-dire œil pour œil, dent pour dent, même dans le domaine politique et militaire, a montré qu'elle ne résout rien et ne fait au contraire que provoquer encore et davantage de violence. La miséricorde n'est pas un succédané de la vérité et de la justice, mais une condition pour faire en sorte d'être en mesure de les trouver. Elle n'est pas un indice de faiblesse, mais de force. La miséricorde est pour tout type de communauté ce que l'huile est pour le moteur. Si quelqu'un part en voyage, il peut le faire sans même une goutte d'huile dans son moteur, et après quelques minutes, il verra tout s'enflammer. Il en est ainsi pour une communauté humaine qui veut se passer de la miséricorde. Comme l'huile, le pardon lui aussi élimine les frictions, lubrifie le mécanisme des relations humaines à tous les niveaux, de la communauté la plus élémentaire qu'est la famille à la plus vaste qu'est la communauté internationale. C'est tellement vrai ce que dit le père Cantalamessa. Aussi ne tardons plus, opérons nos pardons maintenant. Et justement, l'heure est venue de vous répondre à vous, chers amis de la Voix de la Charité. Mais qui est donc en vérité celle qui vous parle chaque samedi de la recherche de la paix? L'enfant est le père de l'homme. Aussi évoquerai-je mon enfance. Je suis né à Besançon le 16 octobre 1952. Maman, une sainte femme catholique vouée à sa famille et à sa paroisse, Sainte Jeanne d'Arc. Et papa, un militaire, grand médaillé, grand blessé de guerre et traumatisé par les combats d'Indochine et d'Algérie. Deux sœurs, l'aînée Chantal, la petite Sylvie, toutes deux mariées. J'adorais mon père et je souffrais de ses nombreuses absences et de son incapacité maladive de me montrer sa tendresse et son affection. Et je souffrais aussi de ces accès de violence. À l'adolescence, cet exil loin de mon père terrestre me conduisit à dire à maman « Ton Dieu, père et amour du catéchisme, ce n'est pas pour moi. Mon premier Dieu, ce fut mon père, incapable de m'aimer. Aussi, pour moi, Dieu n'est pas père, alors je quitte ton église et je pars à la recherche de ce père perdu. » Ce que je fis vers l'âge de 18 ans. Mon bac en poche, L'aventure commence. Ma quête existentielle de l'amour absolu de ce père perdu me conduira à franchir de multiples expériences, parfois des plus dangereuses, tout en préparant mon doctorat et mon agrégation de lettres modernes à la Sorbonne et au cours Sévigné, et en suivant quelques cours de métaphysique sur l'île Saint-Louis. À l'École supérieure de pédagogie de Paris, où je suivais un cours sur la structure du mental, je rencontre Ilham Shamoun, une Libanaise qui préparait une maîtrise de psychanalyse et d'éducation pour s'occuper de la jeunesse de guerre au Liban. Nos esprits fusent et Ilham fera tout pour me donner le goût de vivre et le sens de la vie. Lors d'une récréation, alors que j'étais venue en cours avec mes deux chats, Socrate et Aphrodite, vêtus d'un sac poubelle avec une chaîne de vélo, je demande à Ilham, très intrigué, « Dis-moi, Ilham, est-ce que l'amour existe ?» Elle me répond, « Tiens, prends ce café. » Et nous lions une grande amitié. Je découvre qu'elle est auprès des plus souffrants de son pays, le Liban, et son amour des jeunes Libanais qu'elle éduque. Mais mon drame intérieur augmentait. Dans mes études brillantes et mes expériences de vie, rien d'absolu. Partout, je me sens ailleurs et de nulle part. Étrangère à tout. Curieuse sensation d'exode intérieur, de migration. Pourtant, apparemment, rien ne me manque. Je vais donc m'enfermer 3 mois dans un cercueil que j'ai volé la nuit dans un centre de vivisection rue des Fossés-Saint-Marcel à Paris, d'où je voulais libérer les animaux de la sauvagerie humaine. Le vide se creuse donc en moi. Une volonté de mourir me hante. Je veux passer sur l'autre rive. Certaine que cet amour absolu que je cherche se trouve derrière la mort. J'ai 32 ans, la décision est prise. C'est le 26 février 1984. Il est environ 20 heures, dans ma cave d'artiste parisienne du 5e arrondissement de Paris, rue Laumont. Juste une petite lumière. Je décide d'appeler Ilham pour lui rendre sa thèse que j'avais corrigée et lui annoncer que je vais mourir. Elle me dit « Brigitte, ne fais pas n'importe quoi, j'arrive. » Ce qu'elle fit en me disant « Brigitte, ta beauté et ton intelligence ont servi le néant. Tu ne vois pas qu'on t'aime. » Et elle me jette un petit cadeau, prend sa thèse et part en pleurant. Seule, dans ma cave sombre, j'ouvre son cadeau pour le ranger avant de partir sur l'autre rive. Et je vois « Bible de Jérusalem ». J'ouvre la page de garde. Elle avait collé le drapeau du Liban avec une colombe et un petit mot libanais « Hayeti » qu'elle me disait souvent quand je désespérais. Souvent ? Soudain, pardon, excusez-moi, j'ouvre la Bible et je tombe sur le prologue de saint Jean. Et le Verbe s'est fait chair et il a habité parmi nous. Immédiatement, je suis comme électrifié. Je jette la Bible, me dirige vers le robinet pour prendre un verre d'eau. Une lumière m'éblouit et au pied de l'échelle de ma petite mezzanine, en personne, le Christ. Je me jette à genoux, à ses pieds. Il mettra sa main sur ma tête pendant 8 heures et il me dira « Brigitte, tu n'étais plus là, mais moi, j'étais là. Tu ne me quitteras plus, tu seras ermite. » Immédiatement, au milieu de mes larmes, Jésus me révéla que c'était son Père, notre Père, qu'il avait envoyé pour me combler de son amour et me permettre de pardonner à papa, ce que je fis. Ô divine blessure d'enfance, qui me conduit à de telles retrouvailles. Le nom Abana vient donc de cette blessure d'enfance. En cette nuit de feu, je fus comme lavé et guéri, passé de la mort à la vie. Jésus est venu me chercher dans ma misère. Le combat le plus rude devait cependant commencer. Entre la vieille femme au sens de saint Paul et ses mauvaises habitudes, et la nouvelle femme qui venait de naître, étreinte par Jésus et ne voulant plus que le séduire. Ce pourquoi je suis tout de suite allé chez le père Jean Robin de l'archevêché de Paris, déposer cette rencontre du Christ en ma nuit de feu, afin qu'il me guide sur le vrai chemin. Entre 1984 et 1986, je serai professeur au lycée Saint-Thomas d'Aquin à Paris, dans le 7e arrondissement, où j'ai fondé un petit sanctuaire à la Vierge et avec mes élèves, une petite mission auprès des paumés sur les quais de Notre-Dame de Paris. Quand soudain, en juin 86, Ilham Chamoun m'invite au Liban pour connaître la jeunesse dont elle m'avait tant parlé. Je suis accueilli au lycée Saint-Élie de Batroun. Les sœurs de la Sainte Famille Maronite seront très charmantes et si dévouées. Elles me conduiront dans la vallée des saints et tout spécialement dans la grotte où l'on enchaînait les fous. C'est là où je fus terrassé une seconde fois par Dieu. « Brigitte, c'est sur cette terre que tu seras ermite. » Mais je ne voulais pas du tout rester au Liban, car d'une part, j'avais une mission engagée à Paris et j'étais très attaché à la France. Et j'y avais ma famille et mes nombreux amis que j'aimais. Et d'autre part, le Liban me paraissait très compliqué et toujours en guerre. Je n'y tenais pas. Aussi, je décide de faire vérifier cet appel de Dieu pour le Liban auprès du père Boulos Najam, qui m'avait connu à Paris et que je respectais beaucoup. Il confirmera directement en me disant, avant de m'écouter même, « Brigitte, j'espère que tu viens me dire que tu restes ermite au Liban. » Ce fut bouleversant. Aussi suis-je rentré à Paris, régler mes affaires, et en octobre 86, je devais revenir au Liban.
J'ai volé vers les cèdres du Liban, déployé mes ailes au bel amant. J'ai goûté aux fruits et aux délices, et du ciel entrevu les prémices. J'ai chanté. parfum d'aloe et de myrrhe. Et mon âme est prise, s'est donnée tout à toi, mon bien-aimé, mon roi. J'ai chanté. Ce pays où coule le lait et le miel, mon bien-aimé, c'est là que tu m'appelles. Mon bien-aimé, c'est là que tu m'appelles.
Je suis revenue au Liban avec un conteneur plein de livres pour les jeunes du lycée Saint-Élie de Batroun, où je devais rester 8 ans professeur de littérature française, car on m'a bien expliqué qu'avant d'être ermite, il faut au moins 8 à 10 ans dans un monastère ou dans un lieu où l'Église m'observerait pour mesurer mon rayonnement et surtout l'équilibre de ma personne. On ne se destine pas à une solitude érémétique si simplement. J'obéis. Et le 6 mai 88, à 6h du matin, une voiture piégée explosera derrière les murs de ma chambre. Le lycée fut soufflé et Ilham, c'est-à-dire Sœur Jean-Claude, et moi, nous sommes partis à Paris fonder la mission des enfants du Cèdre pour reconstruire tout le lycée et venir en aide à de nombreux handicapés de guerre. Jamais je n'oublierai. Nous étions dans un travail passionnant, avec des professeurs libanais admirables et si cultivés et courageux. Une jeunesse libanaise plurielle, qu'on essayait d'unir à travers la connaissance les uns des autres. Et voilà 1989. La guerre. 1990. L'horreur. Jamais je n'oublierai Ayad, le plus grand sportif de notre école, saisi par des obus à Beyrouth. Et Ziyad, lui aussi, qui a 18 ans, m'a dit, petite sœur d'amour, heureusement que Dieu m'a pris mes jambes, car je ne marchais pas, je faisais n'importe quoi avec les filles. Maintenant, j'ai rencontré le Christ tout à l'intérieur de mon cœur et je marche. Ou encore, cette maman affolée qui arrive à Saint-Élie après avoir perdu ses 3 petits. 2, 5 et 6 ans, Maya, Jade et Georges, brûlés dans un autocar piégé. Je n'oublierai jamais. Et tant d'autres amis libanais qui m'ont appris à saisir la souffrance, le sort tragique, le martyr d'amour de ce petit peuple libanais coincé dans la montagne du Liban, entre le lac bleu de la Méditerranée d'une part et un océan de sable d'autre part. Je compris de plus en plus et de mieux en mieux la destinée de ce peuple libanais, la beauté de ce pays, ses faiblesses, certes, mais surtout sa foi indéfectible en Dieu et en l'homme malgré tout. Son courage, son attachement à sa terre et sa grande espérance. En 1993, l'Église me permet de commencer ma vie de solitude dans une cave de la montagne de Batroun, à Toula. Père Augustin du Prélatour, mon père spirituel, me donne le Saint-Sacrement, la Bible et le crucifix. Un long chemin, parsemé de très lourdes épreuves, d'incompréhensions de toutes sortes, d'accusations, voire graves, que j'unirai à la croix glorieuse de Jésus-Christ, mon ami certain, de mes heures incertaines. Chemin de solitude qui me conduira, sous la direction du feu père abbé Johannes Slim, à ma consécration publique par les 3 vœux dans les mains de mon évêque en tant qu'ermite. Être ermite, c'est être amoureux de Dieu et oser lui consacrer tout son temps. Le silence de l'ermite n'est pas l'absence de parole, comme on le croit trop souvent, mais l'absence de soi-même dans la présence à l'autre. L'ermite devient prière. L'ermite devient feu, frère ou sœur universel, c'est-à-dire un être eucharistique, un être de paix et de lumière, tout revêtu du Christ, qui intercède au nom de tout homme, contre le mal intérieur et contre le mal dans le monde. Un être de paix qui se fait tout à tous. Après un rude combat intérieur, plus dur que la bataille des hommes, en 2002, frappe à la porte de l'ermitage Laurence Delacroix, qui m'avait écouté dans une conférence à Angers en 1993, et avait alors retrouvé le Christ et l'Église dans une grande conversion. Elle demanda de faire une retraite de discernement de sa vocation, et après plusieurs séjours, elle a décidé d'embrasser ma vie de prière. Elle est ici depuis 5 ans, et c'est d'ailleurs elle qui chante pendant cette émission. Puis une Allemande, puis Elisabeth. Dieu étonne. J'ai donc décidé de renoncer à mon titre canonique d'ermite, comme saint Antoine renonça à son titre d'ermite pour devenir médecin de toute l'Égypte, pour donner naissance à la maison de prière Abana. Notre maison Abana, poussée par l'esprit du verbe fait chair, peut accueillir des priants, en quête de Dieu ou désirant progresser dans leur vie spirituelle, dans l'ézikia, la paix du cœur, dans la communion au Père. Dans le silence de l'adoration, la prière du cœur, l'écoute de la parole. Les assoiffés de Dieu et du désert peuvent y faire une retraite de temps à autre, comme Florence Marfouz de Jounier, qui vient fidèlement nous édifier par sa vie si profonde en Dieu. Notre offrande de vie veut soutenir le cœur de l'Église, tout spécialement l'évêque du lieu et ses prêtres, le Saint-Père, le Patriarche et les églises si persécutées de la maison d'Antioche. Et aussi, on intercède pour chacun de vous, ici, au Liban et au-delà. Les pères et mères du désert, les moines de la tradition syriaque, sont nos racines spirituelles avec le magistère et les saintes écritures. Le priant d'Abana décide de devenir Christ pour aimer comme lui, d'un amour qui se laisse crucifier, mépriser, insulter, mais d'un amour qui continue d'aimer à l'infini, sans compter ses fatigues, ses blessures ou ses humiliations. C'est de cet amour-là qu'on aime le Liban et qu'on vous aime tous. C'est par unique grâce, car comme vous, on a souvent envie de partir et de fuir, de retrouver nos familles en France, en Allemagne. Oui, c'est très humain, mais on a ensemble, toutes les quatre, pris la décision de demeurer auprès de vous, au nom du Christ, au nom de l'Église, au nom de tous ceux qui doivent rester et qui n'ont souvent pas le choix. Je suis devenue maronite pour épouser pleinement votre destinée. Ma consécration, c'est Saint Charbil qui la protège avec Monseigneur Paul-Émile Saadé, évêque du diocèse de Batroun, gardien et protecteur de notre maison Abana. Notre maison Abana veut être une porte ouverte sur le ciel et sur cette terre d'Orient si mouvementée. Nous demandons votre prière. Nous sommes des priantes parmi vous, les grands priants. Et prions ensemble pour que notre Liban redevienne prochainement une terre d'amour et de pardon. Le Liban m'a sauvée, j'ai décidé de le défendre jusqu'au bout avec le Christ. Je laisse l'ultime parole à celui qui m'a saisi et ne cesse de le faire. Jésus-Christ, mon amour et ma vie, qui est le fondateur véritable d'Abana. La paix soit vraiment avec vous tous. Jésus-Christ a fondé notre Église pour que nous devenions un, en l'imitant. Jésus ne dit pas « Cette femme est volage, légère, prostituée, sotte !» Elle n'est qu'une femme. Jésus lui demande un verre d'eau et il engage la conversation. Jean 4, 1, 42. Jésus ne dit pas « Voilà une pécheresse publique, une prostituée, à jamais enlisée dans le vice !» Jésus dit « Elle a plus de chance pour le royaume de Dieu que ceux qui tiennent à leur richesse ou se drapent dans leur vertu ou leur savoir. » Luc 7, 36, 49. Jésus ne dit pas « Celle-ci est une adultère !» Jésus dit « Je ne te condamne pas, va et ne pêche plus. » Jean 8, 9, 10. Jésus ne dit pas « Celle-là qui cherche à toucher mon manteau n'est qu'une hystérique et une folle !» Jésus l'écoute, lui parle et la guérit. Voilà, voilà notre bien-aimé Jésus qui nous montre le chemin. Soyez dans la paix. Amen.
À la recherche de la paix. Un programme de la Voix de la Charité présenté par Sœur Brigitte May, fondatrice de la maison de prière à Banin, au Liban.